RJB Info, le journal, Natacha Mengoli, bonsoir.
Bonsoir. La Confédération aimerait durcir le ton dans la lutte contre le coronavirus. Le Conseil fédéral a annoncé en fin d'après-midi un nouveau train de mesures. En tête de liste, l'extension du certificat Covid dans le cercle privé. Dossier complet dans un instant. L'école de maturité spécialisée sera transférée de Moutier à Bienne. La décision a été officialisée aujourd'hui. Elle fait suite au départ de la ville prévotoise dans le Jura. Ce déménagement sera effectif dès la rentrée 2022. Et c'est désormais officiel, Éric Zemmour sera candidat à la présidentielle française. Le polémiste de la droite dure l'a annoncé dans une vidéo à la mi-journée. L'ancien éditorialiste parasite ainsi la campagne de sa concurrente de l'extrême droite, Marine Le Pen. Météo, la journée de demain démarrera sous quelques éclaircies, mais les nuages prendront rapidement le relais. Les premières averses sont attendues en fin de matinée et vont se généraliser au fil de l'après-midi, maximum 5 à 8 degrés. Le Conseil fédéral a donc tenu cet après-midi une séance extraordinaire pour analyser à la fois la flambée des infections actuelles, mais aussi l'émergence du variant Omicron. Pas d'informations particulières concernant la mutation du virus. Le Conseil fédéral se doit de réagir, estime-t-il. Il met un paquet de mesures qu'il estime pragmatiques en consultation, sans fermeture ni interdiction. Écoutez le président de la Confédération, Guy Parmelin, c'était il y a quelques minutes à Berne.
Le Conseil fédéral s'est réuni aujourd'hui en séance extraordinaire. L'objectif était d'évaluer la situation épidémiologique, d'identifier les mesures sanitaires qui pourraient se révéler nécessaires. Nous n'avons pris aucune décision aujourd'hui, mais nous mettons différentes mesures en consultation immédiatement, notamment une extension de l'obligation de présenter le certificat Covid, une réintroduction du port du masque dans les espaces publics intérieurs. Le Conseil fédéral envisage aussi une recommandation ou obligation de travail à domicile et un raccourcissement des délais de validité des certificats délivrés suite aux tests.
Le Conseil fédéral met donc en consultation jusqu'à demain soir un paquet de 5 mesures. Pour commencer, c'est l'extension du certificat Covid à l'intérieur, Olivier Zano.
Oui, toutes les manifestations publiques et toutes les activités sportives ou culturelles amateurs en intérieur se feront uniquement avec un certificat valable. Le Conseil fédéral propose également d'apposer le certificat pour les rencontres privées en famille et entre amis réunissant 11 personnes ou plus. Concernant les manifestations en plein air de plus de 300 personnes, elles seraient soumises aux mêmes règles qu'en intérieur.
Par ailleurs, le Conseil fédéral propose d'imposer le port du masque dans tous les espaces intérieurs.
Effectivement, et dans les établissements qui ne permettent pas le port du masque, des mesures de substitution devront être appliquées. Par exemple, dans les restaurants, la consommation devra se faire assis. C'est aussi le cas dans les bars ou les discothèques. Et dans le cas des activités culturelles ou sportives qui ne permettent pas le port du masque, il deviendrait obligatoire de collecter les coordonnées des personnes présentes.
Autre point important, c'est la question de limiter les échanges dans les espaces de travail. Et là, Olivier, 3 scénarios sont proposés par le Conseil fédéral.
Oui, il y en a 3 effectivement. Soit le port du masque obligatoire pour tous, soit l'obligation de travailler à domicile pour les collaborateurs qui ne sont ni vaccinés ni guéris, pour autant qu'il soit possible de le faire, soit une obligation générale du travail à domicile.
Merci beaucoup Olivier. Le Conseil fédéral propose d'imposer des tests répétés à toutes les écoles jusqu'au secondaire 2. Il est aussi prévu que la durée de validité des tests soit ramenée à 48 heures au lieu de 72 comme actuellement. Toutes ces mesures sont donc en consultation auprès des cantons et des partenaires sociaux jusqu'à demain soir. Et toujours au registre Covid, la liste des pays touchés par le variant Omicron s'allonge. Dès aujourd'hui, les voyageurs qui viennent du Japon, du Canada ou encore du Portugal doivent présenter un test PCR négatif à leur arrivée en Suisse, puis se placer pendant 10 jours en quarantaine. 23 pays figurent désormais sur cette liste, dont l'Afrique du Sud, la Belgique ou encore le Royaume-Uni. C'était annoncé depuis quelques semaines déjà. L'école de maturité spécialisée de Moutier va déménager à Bienne et rapidement. Le transfert de l'institution sera effectif à la rentrée 2022, annonce faite aujourd'hui par les autorités bernoises. Il s'agit d'une des nombreuses réorganisations à venir dans le canton de Berne suite au vote de Moutier. Le MSP emménagera à la rue d'Arberg entre Bienne et Nidau. Une localisation idéale selon le secrétaire francophone à la direction de l'instruction publique et de la culture, Pierre-Étienne Turcher.
La solution trouvée est idéale d'un point de vue logistique, hein, premièrement parce que l'école sera très bien située à proximité de la gare, donc c'est quelques centaines de mètres. Puis l'autre point, c'est qu'elle a quelques centaines de mètres aussi de la maison mère, à savoir le gymnase français de Bienne, dont elle est une des filières. Les élèves de l'école de maturité spécialisée qui jusqu'à présent sont à Moutier, ne peuvent pas profiter par exemple de l'offre de cours facultatifs, ils ne peuvent guère profiter d'infrastructures comme la bibliothèque ou d'autres choses donc, qui sont situées dans les infrastructures du gymnase français de Bienne à Bienne. À l'avenir, donc dès la rentrée 2022, ce sera possible. Je pense aussi que d'un point de vue des horaires, il faut savoir que pas mal d'enseignants et d'enseignantes pendule en quelque sorte, entre Moutier et Bienne ou entre Bienne et Moutier. Donc vous imaginez l'impact sur les horaires, il faut prévoir le temps pour se déplacer, soit en train ou éventuellement en voiture, mais je pense qu'il y aura une amélioration, une meilleure efficacité, et de ce point de vue-là, tant les enseignants que les élèves vont profiter.
Le déménagement de l'école de maturité spécialisée de Moutier à Bienne interviendra principalement pendant les vacances d'été 2022. L'idée sera évidemment de perturber le moins possible l'enseignement. Environ 140 élèves sont concernés. Mémoire d'ici compte multiplié par 10 ses surfaces de conservation. Les responsables du Centre de recherche et de documentation du Jura bernois ont levé le voile ce matin sur un projet d'extension d'envergure. Il est prévu de construire un bâtiment souterrain de 2 étages, juste à côté de la bâtisse des Rameaux qui abrite aujourd'hui l'institution Imérienne. Cette solution permettra de créer plus de 700 mètres carrés de surface pour entreposer les archives régionales. Cette formule enterrée présente des complexités, mais aussi des avantages certains. Sylviane Messerli, directrice de Mémoire d'ici.
C'est vrai que c'est compliqué. On a dû s'entourer de personnes spécialisées qui nous permettent de voir ce chantier relativement sereinement. Mais pourquoi le construire en souterrain? C'est pour répondre le plus précisément possible aux normes des conservations d'archives. On sait que c'est là qu'on aura le moins de frais secondaires sur le long terme. On sait que c'est là qu'on aura le plus de stabilité et de sécurité. Et pour nous, c'est important de pouvoir assurer cela sur le long terme.
Donc stabilité, notamment au niveau de la température de ces pièces qui ne doit pas changer. Est-ce qu'il n'y a pas des dangers au niveau des inondations potentielles, des infiltrations d'eau quand on pense à un bâtiment souterrain, par exemple?
C'est vrai qu'on s'est plusieurs fois posé cette question, parce que c'est la hantise de tout lieu d'archives, d'avoir de l'eau. Et puis quand on imagine un lieu en souterrain, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? On a posé aussi plusieurs fois la question à l'architecte qui nous disait mais il y a des parkings qui sont construits sous l'eau, il y a les archives de la Bibliothèque nationale qui sont aussi sous terre. On est aujourd'hui dans un siècle où la construction, les techniques de construction nous permettent d'envisager un tel type de bâtiment sans se faire trop de cheveux blancs.
Ce projet d'agrandissement porté par les fondations de Mémoire d'ici et des Rameaux, propriétaires du bâtiment, est devisé à 2,5 millions de francs. Pour le moment, 80% du budget est assuré. Une campagne d'appel aux dons démarre d'ailleurs cette semaine. Le but est de miser sur un soutien de la population pour boucler le financement, mais pas que, selon Séverine Perret, responsable administrative pour Mémoire d'ici, mais aussi chargée des finances de ce projet.
Pas pour la totalité des 20%, puisque de nombreuses demandes sont déjà en cours auprès de fondations privées, auprès d'entreprises ou d'autres clubs-services. Mais il restera effectivement un solde que nous espérons pouvoir financer grâce au soutien et à la générosité de la population du Jura bernois. Nous avons toujours entretenu des liens très étroits avec elle. Nous espérons pouvoir compter sur cette générosité et ce soutien.
La demande de permis de construire a été déposée récemment. Dans l'idéal, le premier coup de pioche pour l'agrandissement des espaces de stockage de Mémoire d'ici pourrait être donné au printemps prochain. Des débats bilingues au Grand Conseil. Le Parlement bernois a vécu une journée toute particulière aujourd'hui. Les députés étaient invités à prendre la parole dans l'autre langue, en allemand pour les francophones et en français pour les germanophones. La grande majorité des parlementaires a joué le jeu, au moins pour les salutations, ou même au plus pour leur discours au complet. Mise sur pied par le canton de Berne avec la collaboration du Forum du bilinguisme, cette journée spéciale a été une réussite pour le vice-chancelier et chef de l'Office du bilinguisme, David Gaffino.
Complètement. Je pense qu'on avait vraiment signalé clairement qu'il s'était vraiment volontaire et qu'il ne s'agissait pas de faire des discours entiers dans l'autre langue. Ceux qui veulent le faire, qui sont capables de le faire, ils sont bien sûr les bienvenus. Certains l'ont fait. Mais pour d'autres, on l'a bien dit, il s'agit simplement parfois de dire quelques mots de salutation ou de faire une phrase ou deux au milieu ou de conclusion. Et je crois qu'il y a eu un bon mélange de tout ça, suivant ceux qui étaient à l'aise, ceux qui ont demandé un peu de préparation, ceux qui l'ont fait spontanément. Puis il y a aussi eu beaucoup de petits traits d'humour ou de remarques qui ont été faites sur ça. Ça a aussi thématisé un peu ça d'une manière un peu plus légère que les thèmes à l'ordre du jour et que l'actualité du moment.
Vous l'avez dit, certains ont eu besoin peut-être d'un peu d'aide. Qui a pu les aider? Comment vous avez pu les aider?
Donc effectivement, on a fait le choix. Vous savez, ces journées du bilinguisme, elles existent au niveau fédéral, au niveau cantonal, ça commence. Il y a eu le canton du Valais qui l'a fait en septembre. Sur la base de ce qu'on a entendu comme écho, on s'est dit on veut faire un peu plus de préparation, on veut leur fournir des outils parce qu'on veut que ça soit bien vécu, que ça soit pas une cacophonie ou autre. S'il y a des erreurs, c'est aucun problème, mais il faut quand même qu'ils se sentent soutenus s'ils en ont besoin. Et donc les services linguistiques centraux de la chancellerie d'État ont offert une brochure d'information. Ils ont aussi donné la possibilité de faire traduire des textes ou de relire des traductions. Ils ont aussi fourni un lexique, un petit historique de la traduction dans le canton de Berne. Enfin, c'est l'occasion un petit peu de faire vivre ce sujet aussi dans la journée d'aujourd'hui au Grand Conseil.
Le vice-chancelier du canton de Berne, David Gaffineau, répondait à Lydiane Guenat. Après la séance du jour, une rencontre sur le thème du bilinguisme et du projet d'avenir Berne romande s'est déroulée en présence notamment du conseiller d'État Pierre-Alain Schneck, de la présidence du conseil du Jura bernois et de celle du conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Bienne. C'est enfin officiel. Depuis la mi-journée, Éric Zemmour sera candidat à la présidentielle française. Il l'a annoncé ce midi. Un bâton de plus donc dans les roues de la droite classique qui doit choisir son candidat ces prochains jours. Une concurrence de plus également à l'extrême droite. Décryptage de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger.
Des images de vidéos sans contexte, hachées et anxiogènes, la symphonie numéro 7 de Beethoven, une bibliothèque en décor mural et un micro vintage. Éric Zemmour a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle via un clip de 10 minutes diffusé sur les réseaux sociaux. À l'issue de 3 mois de suspense, l'ancien journaliste a finalement officialisé ce midi sa participation à la campagne électorale française. Dans cette vidéo angoissante, presque apocalyptique, Éric Zemmour, qui regarde peu la caméra et reste collé à son texte, poursuit sur les thèmes qui les traînent depuis des mois. Le naufrage d'une France qui sombre sous les coups de l'immigration et de la mondialisation, la perte des valeurs et la médiocrité des dirigeants. Des recettes qui ont fonctionné jusqu'alors et le signe qu'il cherche aussi à reprendre l'avantage alors qu'il est en légère baisse dans les sondages. Sera-t-il capable de sortir de ce registre? En effet, le clip ne comporte pas d'éléments de programme. Malgré ses espoirs, aucune figure politique notable n'a rejoint le polémiste pour le moment non plus. Il lui reste aussi à rassembler 500 signatures d'élus derrière sa candidature. Une obligation légale pour entrer vraiment dans la course.
Actuellement, Éric Zemmour est crédité de 15% d'intention de vote, Marine Le Pen 20%. Le président sortant Emmanuel Macron reste le favori des sondages avec 25%. Merci d'avoir suivi cette édition. L'information revient dans notre rappel des titres de 18h30. Excellente soirée.